Merci d'écouter RFI. Il est 17h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
Simon Bourtembourg.
À la une de cette édition, le Hamas dans l'attente de la libération de prisonniers palestiniens après avoir remis 6 otages israéliens ce matin. 602 détenus doivent maintenant être rendus au mouvement islamiste palestinien. Le dernier échange du genre prévu dans la première phase de l'accord entre le Hamas et Israël. Emmanuel Macron au chevet des agriculteurs avant de se rendre à Washington. Le chef de l'État a inauguré le salon de l'agriculture à Paris ce matin. Il a répondu, nous le verrons, aux inquiétudes de la filière, notamment face aux nouvelles taxes douanières américaines. Dans cette édition, nous serons également à Istanbul. Istanbul où le très populaire maire est à nouveau dans le viseur de la justice. Et puis en fin de journal du football, Lille affronte Lens en Ligue 1. Au terme des 45 premières minutes, les Lillois mènent 2-1. 6 otages du Hamas ont retrouvé la liberté ce matin. Des libérations, les dernières prévues dans la première phase de l'accord de trêve qui porte donc à 29 le nombre d'otages israéliens qui ont été rendus par le mouvement islamiste palestinien. Mais ce samedi, les libérations ont eu lieu en 3 temps et dans 3 lieux différents. La correspondance à Jérusalem de Michel Paul.
Dernier des otages à recouvrer la liberté, Hicham Al-Sayed, un bédouin âgé de 36 ans, qui souffre de troubles psychiques. Il a été libéré dans la ville de Gaza après plus de 10 ans de captivité et avoir traversé la frontière de son plein gré. Et sa libération, contrairement à celle des autres otages, s'est faite sans la mise en scène organisée habituellement par les hommes du Hamas. En tout donc, 6 Israéliens ont été libérés aujourd'hui, 3 d'entre eux capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, 2 binationaux, israélo-argentin et israélo-autrichien, et également Avera Mengistu, un juif éthiopien, lui aussi en mauvaise santé mentale. Il s'était rendu spontanément il y a 11 ans à Gaza. Jeudi prochain, 4 otages qui ne sont plus en vie seront restitués à Israël, et d'après le décompte, parmi eux devrait se trouver le franco-israélien Oadi Alomi. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et en l'échange des 6 otages rendus à Israël aujourd'hui, 602 détenus palestiniens seront cette fois libérés. Parmi eux, 108 qui doivent être expulsés des territoires palestiniens. Des libérations retardées alors que le Premier ministre israélien mène des consultations à caractère sécuritaire. En République démocratique du Congo, Jean-Marc Kabound est libre depuis hier soir. L'opposant et ancien chef du parti présidentiel a quitté la prison centrale de Makala à Kinshasa après plus de 2 ans et demi de détention. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour notamment outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits. D'après les informations de RFI, il n'a pas bénéficié d'une mesure de grâce présidentielle ni de libération conditionnelle. L'opposant a obtenu une liberté provisoire sur décision de la Cour de cassation devant laquelle il attend une révision de son procès. Un drapeau pour l'Alliance des États du Sahel. Pas de surprise, l'étendard affiche un baobab, un soleil et 3 étoiles sur fond vert. La couleur verte symbolise l'espoir et la prospérité, la renaissance et le renouveau, peut-on lire dans le communiqué publié aujourd'hui par l'AES. Voilà donc désormais le Mali, le Niger et le Burkina Faso unis avec un drapeau près d'un mois après leur sortie de la CEDEAO. Le Maroc, invité d'honneur du Salon de l'agriculture qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. 600 000 personnes sont attendues pour l'événement qui met pour la première fois donc un pays étranger à l'honneur. Ce matin, ce sont donc le Premier ministre marocain et les présidents français qui ont inauguré ensemble cette édition 2025. Emmanuel Macron, qui a déambulé dans les couloirs du Salon de l'agriculture, est tenté de rassurer les exposants. Des agriculteurs français inquiets notamment par la concurrence des produits étrangers et les nouvelles taxes douanières américaines. J'en parlerai à Donald Trump, leur a répondu le chef de l'État.
Ça fait partie des sujets qu'on va défendre, parce que j'essaie d'expliquer que quand on parle entre alliés et partenaires, on ne peut pas vouloir faire souffrir l'autre par des tarifs qui, par le passé, et on le voit encore aujourd'hui pour nos producteurs d'Armagnac et de Cognac, qui sont frappés sur le marché chinois, quand vous avez des menaces, quand vous avez des tarifs, quand vous avez des mesures de contrainte, ce sont des familles qui sont menacées dans leur activité. Donc oui, je vais en parler parce qu'on a besoin d'apaiser tout ça. Je vais en parler parce que l'export fait partie aussi de la force de notre agriculture. Je suis déterminé sur tous les sujets pour avoir un échange qui, je l'espère, sera amical, comme on l'a toujours eu, mais qui sera en même temps clair. On partagera nos accords, nos désaccords, et j'espère surtout qu'on trouvera des solutions sur la question de l'Ukraine, sur la question des tarifs et au-delà.
Emmanuel Macron attendu donc lundi à Washington. Il sera reçu par Donald Trump qui vient de signer lui son licenciement le plus retentissant depuis son retour à la Maison Blanche. Le chef d'état-major de l'armée américaine démis de ses fonctions et ce via un message sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ainsi que le républicain a annoncé la nouvelle au grand public. Une initiative qualifiée de purge par la presse américaine. Yelena Tomic.
Qualifié par le président de dirigeant hors pair et remercié pour ses plus de 40 ans de service, le général Charles Brown était le premier afro-américain à accéder à la tête de l'armée de l'air. Donald Trump n'a pas expliqué les raisons qui l'ont conduit, fait inattendu, à le remplacer après un an et demi de service par une personnalité peu connue, Dan Cain, l'un des directeurs aux affaires militaires de la CIA. Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, avait critiqué le général Brown pour ses positions woke en faveur des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion dans l'armée. 5 autres responsables des forces armées, dont l'amiral Lisa Franchetti, première femme à diriger la marine américaine, viennent rejoindre la liste des licenciés de l'ère Trump. Ces décisions s'inscrivent dans les promesses de Donald Trump de faire le grand ménage autour de lui, de réduire le poids de l'État fédéral et de tailler dans les dépenses. Au moins 5% des effectifs civils du Pentagone, soit environ 5400 salariés en période d'essai, seront congédiés dès la semaine prochaine.
Les États-Unis proposent à l'ONU une résolution pour une fin rapide de la guerre en Ukraine, un texte qui ne mentionne pas le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. On ne peut pas imposer la paix de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe, a rétorqué le Premier ministre espagnol. Dans le même temps, Keir Starmer et Ursula von der Leyen plaident pour la nécessité de garantir une paix juste et durable en Ukraine. Le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne se sont entretenus aujourd'hui au téléphone. Des discussions alors que des centaines de manifestants se sont réunis à Londres en soutien à l'Ukraine près de 3 ans après le début de la guerre. L'Allemagne, à la veille d'un scrutin décisif, 60 millions d'électeurs sont appelés demain à renouveler les 630 sièges du Bundestag. Le chrétien-démocrate Friedrich Merz est en tête des sondages devant le chancelier sortant Olaf Scholz. En cas de victoire, les deux hommes ont exclu de gouverner avec l'AfD, le parti d'extrême droite qui devrait signer une percée retentissante dans le pays endeuillé par plusieurs attaques meurtrières ces dernières semaines. RFI, 20h passées de 8 minutes à Istanbul, où le maire, le très populaire Ekmer İmamoğlu, est à nouveau dans le viseur de la justice. Il est accusé d'avoir falsifié son diplôme de licence en sciences administratives. Alors depuis, la municipalité d'Istanbul a publié un exemplaire du diplôme du maire pour faire taire la polémique, mais le procureur a ouvert une enquête. Céline Pierre Magnani.
Ekrem İmamoğlu est à nouveau convoqué devant la justice le 26 février et devra répondre aux accusations de falsification de son diplôme universitaire. Le très populaire maire d'Istanbul fait déjà l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui pourraient aboutir à des peines d'emprisonnement et d'interdiction de la vie politique. L'annonce de l'enquête intervient alors que l'édile a déposé cette semaine sa candidature pour les primaires de son parti qui se tiendront en mars. Car si la justice s'acharne sur cette personnalité très appréciée dans les rangs de l'opposition, c'est qu'il fait de l'ombre à Recep Tayyip Erdogan. Le président quasi omnipotent compte bien se représenter pour briguer un quatrième mandat en 2028. Cette enquête alourdit un peu plus une atmosphère politique déjà tendue. Des arrestations tous azimuts ont eu lieu ces dernières semaines contre des maires de l'opposition, des représentants du patronat et des militants politiques. Samedi 22 février, le même procureur a lancé une enquête contre le barreau d'Istanbul pour propagande terroriste et diffusion de fausses informations. Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
Le pape, toujours hospitalisé, ne dirigera pas demain la prière de l'Angélus. Le Vatican se veut pourtant rassurant. Pris en charge depuis vendredi dernier, François, âgé de 88 ans, est surveillé pour une pneumonie des deux poumons. Au Burkina Faso, l'ouverture ce samedi de la 29e édition du FESPACO, le grand festival de cinéma de Ouagadougou, qui rendra évidemment hommage à Souleymane Cissé, le réalisateur sénégalais qui devait présider le jury du long métrage est décédé mercredi dernier. Et puis un mot de football avec en France Lille qui accueille en ce moment l'AS Monaco, 2-1 au bout de 51 minutes. Suite de la 23e journée, ce sera dans 45 minutes, Saint-Etienne face à Angers avant Auxerre face à Marseille.